Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, habitants poétiques et poètes habités, hantés par des mondes qui n'existent pas encore, hantés comme un vieux château en devenir. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Aujourd'hui, nous allons lever un bout de voile et regarder bien en face ce qui se raconte derrière les murs du château de Benat, vieux pour certains de plus de 800 ans, des murs mûrs, donc, aujourd'hui, pour réécrire et réinventer des histoires. Ce sont des histoires bien contemporaines qui se préparent, des histoires aussi qui dialoguent avec celles du passé, celles qui se confondent avec la mémoire. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du château, centre d'art contemporain et du patrimoine d'Aubenas, qui, après 7 ans de travaux, ouvre ses portes enfin le 5 juillet prochain, autrement dit demain. Enfin, je dis ça, autrement dit demain, c'est surtout pour mon invité qui se dit « Mon Dieu, mais c'est tout de suite, c'est bientôt !» Pour percer les secrets de ces murmures de murmures, donc j'ai le plaisir de recevoir celui qui porte dans son nom beaucoup de ces histoires enfouies, passées et à venir, Victor Secrétan, directeur du Château, Centre d'art contemporain et du patrimoine de Benat. Bonjour Victor.
Bonjour Sophie.
Merci d'être avec nous.
Merci de votre accueil.
Aujourd'hui aussi avec nous, Manon, qui est en stage chez nous pendant une semaine, et vous aurez sans doute l'occasion de l'entendre. Bonjour Manon.
Bonjour.
Et comme toujours, toujours fidèle, il est là, malgré tout ce qui se passe, Sylvain, derrière
la vitre. Pour encore une semaine, ouais.
Ouais. Oui, c'est vrai, après c'est les vacances.
Ouais.
Salut Sylvain. En fin d'émission, vous retrouverez aussi la chronique hebdomadaire La Minute Associative, consacrée chaque lundi depuis quelques semaines déjà à l'actualité de l'accompagnement associatif, formation, agenda, conseils, etc., qui sont prodigués par les têtes de réseau associatifs en Ardèche. Et aujourd'hui, c'est Christina Youl de la Fédération Nationale et des Compagnies de Théâtre Amateur, la FNCTA, qui nous parlera des droits d'auteur. Ça, ce sera à la fin de l'émission, mais avant et avant encore, c'est l'agenda. Allez, on commence par l'origine. Vous le savez, c'est le mois de la petite enfance, joliment et richement honoré sur la Comcom du bassin d'Aubenas. Et mercredi, donc ce mercredi, de 14h à 16h, l'École des parents et des éducateurs, l'EPE07, propose un temps d'échange sur les stéréotypes et l'héritage des modèles éducatifs. Comment éduquer nos enfants à l'égalité? Waouh! Vaste sujet, et en effet, mieux vaut s'y prendre très tôt et extirper le mal à la racine. Ça a lieu au Café des Parents, dans le quartier des Oliviers, à Aubenas. Vous pouvez venir avec ou sans enfant, mais le mieux, c'est de réserver. Je vous donne un numéro de téléphone. Attention, prenez un papier, un crayon, ou réécoutez cette émission en replay, quand vous voulez, sur notre site, ou à 17h. Ça y est, vous avez le papier et le crayon. Donc, pour aller réserver pour ce temps d'échange, comment éduquer nos enfants à l'égalité, c'est au 04 69 22 16 80. De toute façon, vous trouverez toutes les infos sur le site epeardèche.fr. Et justement, l'École des parents et des éducateurs recrute aussi. Je suis perturbée, il y a des choses qui se passent à travers la vitre. Ah, mais c'est Nico. Nico nous dit au revoir. Nico vous embrasse, chères auditrices et auditeurs.
Mais ouais, bonne semaine, bon lundi, vive les vacances.
Merci Nico. Oui, vive les vacances avec les petits. Alors, si on parle de petits, vous n'avez pas... On parle des petits, donc toujours, on a parlé d'éducation, et donc de l'école des parents et des éducateurs qui recrutent. Si votre projet de vie n'est pas de vendre des objets inutiles et manufacturés à l'autre bout du monde, d'autres possibilités s'offrent à vous. Il y a deux propositions d'emploi que je relais aujourd'hui. C'est donc l'École des parents qui recrute une intervenante ou un intervenant social pour le Café des parents. C'est ce lieu d'expression et de partage qui facilite l'entraide entre parents. Et c'est un poste qui est ouvert dès tout de suite maintenant. Je pense qu'ils sont assez dans l'urgence. Donc si vous avez cette fibre du lien, faites un tour sur le site epeardèche.fr. Juste une petite chose, ce n'est pas un temps complet. Alors un jour peut-être les boulots les plus utiles et qui ont du sens apporteront prospérité, mais pour l'instant c'est pas le cas. L'autre proposition, C'est celle du CIDFF de l'Ardèche, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, qui recrute également, qui recrute un ou une intervenante en espace de rencontre. Alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce terme, ce profil, en espace de rencontre. Enfin, moi, ça m'a laissé un peu rêveuse. Bref, là non plus, ce n'est pas un temps complet. C'est un CDD de remplacement à Priva. Vous trouverez toutes les infos sur le site du CIDFF. L'actualité géopolitique est très très riche, vive et anxiogène. Et comme nous sommes à fréquence 7 et que nous sommes un peu décalés, on décale d'une lettre. On enlève la lettre L et on parle de géopoétique. Un monde où l'on considère justement autrement les femmes, les enfants et tous les autres vivants, c'est ce qu'il y a derrière la géopoétique de Kenneth White. Kenneth White, c'est cet auteur et poète écossais qui habitait en Ardèche, ou plutôt qui a habité l'Ardèche et qui est décédé cet été. Kenneth White, à qui l'association Gourgounel et l'Institut international de géopoétique rendent hommage depuis ce week-end et jusqu'au 28 avril à Joyeuse, à travers une exposition « Monde ouvert » qui revient sur l'itinéraire du poète. Et puis il y aura aussi un temps fort le week-end du 27 et 28 avril. Nous aurons l'occasion d'en parler demain dans l'Onde Curieuse, c'est le petit moment autopromotion, avec Benoît Delplanck de l'association Gourgounel. Mais si je voulais en parler aujourd'hui dans cet agenda, c'est qu'il me semblait que la géopoétique, comme l'a imaginé Kenneth White, résonnait avec notre sujet du jour, l'ouverture prochaine du château au Centre d'art contemporain et du patrimoine d'Aubenas, et surtout avec ses expositions inaugurales, notamment l'une d'entre elles qui propose aux artistes de montrer différentes manières d'habiter le monde. Alors juste un mot sur cette géopoétique. Selon Kenneth White, c'est une manière de rétablir et d'enrichir le rapport entre l'humain et la Terre, depuis longtemps rompu, il parle depuis les années 60, hein, depuis longtemps rompu avec les conséquences que l'on sait sur les plans écologiques, psychologiques, intellectuels et sociaux, et de redonner à la culture une nouvelle dynamique, de développer de nouvelles perspectives existentielles dans un monde ouvert. Victor, est-ce que ça vous parle ?
Ça résonne totalement avec l'exposition inaugurale, une des expositions inaugurales, puisqu'il y aura deux expositions, et une exposition en effet qui vient vraiment interroger ces rapports entre humains, non-humains, et qui vient quelque part questionner, en tout cas reconsidérer la place de l'humain comme de l'homme, comme espèce parmi les espèces en fait. Mmh. Et en effet, c'est au cœur des sujets qui aujourd'hui habitent, transcendent beaucoup d'artistes, mais pas que, on le voit aussi, des poètes, des scientifiques. Mm-mm. C'est au cœur, j'ai envie de dire, même des enjeux de notre époque.
Mm-mm. Mais on peut conserver, oui, ce terme d'artiste, si, en fait, les personnes qui se questionnent avec leur sensibilité. On en parle tout de suite après une petite pause musicale qui est aussi une pause artistique et poétique.
Don't stop. Don't stop. I know y'all about to feel it with your hips. We love it when you dip. She break it down. They break it down. Break it down now, everybody break it down. Break it down now, break it down. Break it down. They break it down. Break it down now, break it down now. Break it down now, everybody.
They love it when you move around like this. They love it when you move around like that. I say we love it cause you work your back. We like it cause you like to move like this, like that. Just like this, just like that. Ba, bounce the beginning, bounce the beginning. Ba, bounce the beginning, bounce the beginning. Ba, bounce the beginning, 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 bounce the beginning,
popping, yeah, your booty popping. Booty popping, yeah, your booty popping. Booty popping, yeah, your booty popping. Pop, pop.
Come Calling de Woodat, un titre groove afro-électro et hip-hop, extrait de Sewing Machine Effects, sorti en 2019 et mis en image psychédélique par Worldwide Effects. C'est un choix de notre invité Victor Sécrétan. Victor, pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? C'est, d'abord, ça me plaît musicalement. C'est un morceau, je trouve, qui a une belle énergie. Et puis, c'est un projet assez incroyable. Ce sont des Français qui sont partis à la Nouvelle-Orléans et qui ont réuni, si je ne m'abuse, 5 musiciens, un percussionniste béninois, des rappeurs de la Nouvelle-Orléans, un DJ, et c'est vraiment à la fois quelque chose de complètement hybride, qui est voilà, la croisée de la bounce music, de la musique électronique, et c'est en fait, ils sont allés à l'origine, ils sont allés chercher les Black Indians, qui sont ces Afro-Américains qui, tous les ans, pendant le carnaval, célèbrent en fait l'esprit des tribus amérindiennes qui les ont accueillis quand ils se sont libérés de leur chaîne. Et c'est, oui, c'est un pur syncrétisme, mais c'est quelque part aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'art et qui me plaît énormément, parce que c'est comment les cultures se croisent et comment la richesse naît de la pluralité, on va dire, des écritures et des cultures.
C'est tout à fait effectivement le cœur de ce sujet, puisqu'on est avec vous, Victor Sécrétan, pour parler de l'ouverture le 5 juillet du château Centre d'Art Contemporain et du Patrimoine. Donc ce château qui est en rénovation depuis 7 ans et qui enfin ouvre au public. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne connaîtraient rien de ce projet, qu'est-ce que c'est ?
C'est un projet ambitieux qui est porté par la ville d'Aubenas maintenant depuis plusieurs années et qui s'est articulé autour d'une idée qui était revalorisons le patrimoine, mais comment le fait vivre ? Et il y a eu cette idée incroyable de décider d'implanter un centre d'art contemporain au sein des espaces de ce lieu patrimonial d'exception, de site patrimonial qui est vraiment magnifique et complètement... que le public va redécouvrir, et même j'ai envie de dire découvrir, puisque on en parlera peut-être un peu plus tard, mais ce chantier a permis à la fois des découvertes, des réouvertures d'espaces qui avaient été bouchés avec le temps. Et donc c'est vraiment cette idée de voilà, comment on crée une dynamique qui ne serait pas une dynamique juste, on va dire, touristique et patrimoniale, mais aussi une dynamique culturelle, et comment on fait de la culture, comment on met la culture au centre aussi de la vie sociale et de la cité.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'un lieu d'exposition, ça ne va pas être qu'un lieu d'exposition. Ça, c'est un projet beaucoup plus vaste, un lieu de vie. Alors, j'allais dire concrètement, comment on fait ? Alors, on dit ça va être un lieu de vie. Quelle forme ça prend ?
C'est un projet hybride, en effet, avec à la fois donc cet aspect patrimonial, voilà, et par la nature même du, j'ai envie de dire, du bâti de. Et puis, pour en faire un lieu de vie, je pense que le meilleur moyen de faire un lieu de vie, en effet, c'est d'y accueillir des gens qui ont quelque chose à dire sur l'époque, en tout cas qui s'inscrivent pleinement dans leur temps. Et c'est trouver des moyens de rentrer à la fois en fait de générer la rencontre. J'ai envie de dire que la rencontre, c'est un peu ce qui doit être moteur de ce projet, c'est la rencontre entre les artistes et le patrimoine, la rencontre entre les œuvres et le public. Et ça, évidemment, ça passe par par plein d'axes, par plein de biais. Ça passe par des artistes en résidence, ça passe par des productions de nouvelles œuvres, ça passe par plein de rencontres, des événements, des rencontres avec évidemment des artistes, mais aussi des rencontres avec... on peut imaginer plein de choses. Donc c'est vraiment essayer d'ouvrir au maximum le château pour y accueillir tout type d'événements, j'ai envie de dire, aussi bien évidemment artistiques, c'est au cœur de notre projet, donc l'exposition c'est au centre, mais ça passe par des rencontres avec des acteurs du territoire qui peuvent rentrer en résonance aussi avec les sujets abordés dans les expositions.
Alors on va déplier un petit peu, parce qu'effectivement c'est très dense, c'est très touffu, on va essayer de déplier un petit peu tous les pans de ce projet qui arrive à son terme. D'abord le château, vous disiez, peut-être les Albéniciens vont redécouvrir ce château, parce que donc une rénovation assez longue pour un château qui, lui aussi, s'est développé du XIIe au XVIIIe.
Jusqu'à aujourd'hui même.
Jusqu'à aujourd'hui. Et les rénovations ont mis au jour des choses qui n'étaient... ont dévoilé certains secrets. Un jardin suspendu, peut-être, une salle de justice.
Disons qu'un projet de réhabilitation patrimoniale comme celui-ci, ça implique un grand nombre d'équipes. Donc, à commencer évidemment par des architectes du patrimoine qui travaillent en lien avec les monuments historiques, avec le ministère de la Culture, mais également par exemple un archéologue qui a suivi tout le chantier, qui a profité du chantier pour mener ses missions et ce qui a permis de comprendre certains aspects aussi de l'évolution du bâtiment dans le temps, ce qui dit des choses aussi sur l'histoire même de ce lieu et puis sur l'histoire en général. Et donc c'est en effet aussi la découverte de certains éléments. Par exemple, il y a un décor peint que le public pourra découvrir à partir du 5 juillet, qui est un décor peint 19e, qui était caché sous les enduits, mais qui est un décor peint incroyable, qui date du début du 19e, qui est un décor peint Louis-Philippe. Ce sont des colonnades bleu-blanc-rouge avec des inscriptions où il y a écrit notamment « Vive le roi des Français », des inscriptions qui ont été ensuite... gratté en partie en 1848, quand la monarchie constitutionnelle est balayée par la Révolution. C'est le retour de la Deuxième République, enfin c'est l'avènement de la Deuxième République, et à ce moment-là, on gratte cette phrase et on laisse juste vivre les Français. Donc c'est vraiment aussi la rencontre, j'ai envie de dire, de la petite et de la grande histoire. Et pour que ces inscriptions soient présentes au sein du château, c'est aussi parce que après la Révolution française, quand les Vauguet quittent le château, en 1811, il est racheté par la ville d'Aubenas, et ça devient un lieu public, ça devient un lieu municipal, donc au sein duquel on y installe les tribunaux, des services publics, mais aussi la chambre de commerce à l'époque, voilà. Donc ce chantier a vraiment permis de comprendre, d'approfondir la connaissance que l'on avait sur ce bâtiment et aussi sur l'histoire derrière de la ville d'Aubenas.
Et alors comment vous allez articuler cette histoire, ce patrimoine avec l'art contemporain ? Concrètement, ça va se passer comment ? C'est-à-dire que les visiteurs, les visiteuses pourront déambuler dans le château, toutes les salles seront prises par des expositions ou pas ? Est-ce qu'il y aura un dialogue entre les expositions et les salles ?
C'est une approche, on va dire, assez globale qu'on a imaginée. C'est-à-dire que, d'abord, près de 80-90% des espaces du château vont être accessibles au public, ce qui est assez incroyable, car remarquable en tout cas. Ce sera aussi accessible la quasi-totalité des espaces aux personnes à mobilité réduite, ce qui était un des grands enjeux du projet, de le rendre le plus inclusif, le plus ouvert possible. Et les artistes vont investir, les espaces patrimoniaux, puisque l'ensemble des espaces sont patrimoniaux. Ça va après être, on va dire que le projet va évoluer, ça va se faire en plusieurs étapes. D'abord, on va ouvrir avec deux expositions qui vont investir une grande partie des salles du château. Et dans un second temps, une salle sera consacrée à l'histoire du bâtiment. Ce sera a priori à partir en novembre, on inaugurera cet espace en novembre de cette année. Et puis, il y aura une offre de visite exclusivement patrimoniale, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'art contemporain pourra venir pour aussi découvrir le château, son histoire, et avoir un aperçu, on va dire, un point de vue plus peut-être architectural ou historique sur le lieu. Mais les visiteurs seront confrontés de toute façon en fait, à l'art contemporain qui sera très très présent dans l'ensemble des espaces. Et puis, bon, il y aura les expositions qui rentrent en dialogue avec le lieu. Et je peux vous dire que les artistes sont tous très excités et à chaque fois très enthousiastes à l'idée d'investir ces espaces qui sont singuliers, qui ne sont pas des espaces d'exposition comme ils ont l'habitude, au sein desquels ils ont l'habitude de présenter leur travail.
Mmh. Alors justement, parlons un petit peu de ces expositions qui vont s'ouvrir. On dit ces expositions parce qu'il y en aura deux, et c'est peut-être aussi l'une des missions de ce château, de ce centre d'art contemporain et du patrimoine, c'est de mettre en avant à la fois la créativité, la création contemporaine internationale, mais aussi locale. Et là, on retrouve avec ces deux expositions, peut-être les deux pans de cette proposition, puisqu'il y aura, on en a parlé tout à l'heure, une exposition Habiter le monde.
Oui.
C'est ça, vous allez nous en parler dans un instant. Et puis également une exposition rétrospective monographique de Gérard Latier. Qui est
bien connu des Arts des Choix.
Bien connu des Arts des Choix, qui est un conteur fou, un conteur d'images, d'histoires, qui nous fait vraiment voyager.
Alors, ce sont deux expositions d'ailleurs qui rentrent en résonance l'une avec l'autre, puisque finalement, on se rend compte que l'œuvre de Gérard Latiel est traversée par des préoccupations qui sont déjà celles, j'ai envie de dire, de l'écologie, de le passage aussi d'une société traditionnelle à l'avènement de la société traditionnelle à la modernité, qu'il a connu petit puisqu'il a passé beaucoup de temps en Ardèche enfant, et ça rentre évidemment en résonance avec cette exposition collective Habiter le monde, qui a vraiment pour point de départ une question que je me suis posé en arrivant, qui est finalement, on parle d'art contemporain, mais finalement, de quoi l'art est-il contemporain, si ce n'est de son époque ? Et quelque part, il n'est que, j'ai envie de dire, le prolongement des enjeux de l'époque. Et on en a parlé au tout début de l'émission, les enjeux aujourd'hui qui animent, les artistes sont ceux qui nous traversent tous, qui sont quelque part, comment habiter le monde à l'heure du bouleversement climatique. Ça a un impact terrible sur nos vies et sur notre devenir. Et j'ai envie de dire, à leur manière, les artistes traduisent avec leurs mots, les moyens qui leur sont propres, parlent de ça, témoignent en filigrane de l'état du monde.
Alors vous avez choisi, je crois qu'il y a une douzaine d'artistes qui sont, il y a à la fois des trentenaires, des octogénaires, des artistes qui viennent de République tchèque, du Maroc, d'Afrique du Sud, des États-Unis. C'est votre... Comment on crée une exposition ? Est-ce que vous allez chercher un par un les artistes à travers des réseaux que vous avez, puisque on l'a pas dit, mais Victor Secrétan, c'est intéressant. Vous avez travaillé, vous avez d'abord une formation davantage d'historien et d'historien de l'art également, mais vous avez travaillé à Paris, au Musée d'Orsay, vous avez travaillé à Montpellier, pour préparer des expositions d'art contemporain. Comment on arrive ici à Aubenas pour proposer cette exposition de 12 artistes complètement différents ? Comment vous y prenez ?
Comme vous l'avez résumé, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le champ de l'art contemporain, de l'édition également, et donc j'ai une connaissance, aiguë de la scène artistique contemporaine, une curiosité qui, je pense, est moteur et essentiel à nos métiers. Donc il y a des artistes qui sont présentés dans l'exposition avec qui j'ai eu la chance de travailler par le passé, ou avec qui il y avait eu des projets, pour certains qui n'avaient pas abouti et qui aujourd'hui vont voir le jour. Et j'ai envie de dire, ce qui dicte un petit peu les choix, c'est évidemment donc cette thématique qui est celle d'habiter le monde et donc de réunir en effet des artistes. C'était pour moi important de réunir des artistes qui sont d'âge et d'horizon en fait très différents. En effet, la doyenne de l'exposition a près de 90 ans. L'artiste le plus jeune a quelques artistes qui ont à peine une trentaine d'années. Et ce sont en effet des artistes qui ont des parcours et des écritures très différentes les unes des autres. Et ben oui, on va les chercher, on les contacte quand on les connaît pas, on passe via leur galerie, on leur écrit directement quand on trouve leur mail. Et puis je peux vous dire que quand on leur montre les photos du château, généralement, ils acceptent immédiatement. Donc, et puis, bah, c'est évidemment réunir des œuvres qui viennent voilà, nourrir cette réflexion autour de bah, comment habiter le monde et puis la manière en fait, finalement aussi de questionner ce monde.
Vous avez, alors ils sont tous vivants les artistes, sauf un,
oui, tout à fait.
Gino de Dominicis. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui vient?
C'est un artiste, alors, dans mon parcours, qui est un artiste important, qui, je pense, un artiste qui m'a vraiment amené à l'art contemporain, qui est un artiste très étrange, très mystérieux, un artiste conceptuel italien des années 60, mais qui a beaucoup évolué dans sa pratique. Et là, on va présenter, c'est une toute petite vidéo qui ne paye pas de mine de prime abord, mais qui, à la fois, on peut avoir vraiment des lectures, j'ai envie de dire, très variées de cette œuvre, qui pour moi a une dimension aussi quelque part assez humoristique. C'est une œuvre qui est drôle et j'aime bien les œuvres qui me font rire. Je trouve que l'art contemporain, c'est quelque chose qui peut aussi provoquer ce type d'émotion. Et je pense que c'est une œuvre qui est aussi voilà, très, très, très accessible, dans laquelle tout un chacun peut se projeter. Et c'était important pour moi de... D'ailleurs, en fait, le titre de cette œuvre qui s'appelle en italien Tentativo di volo, tentative d'envol, devait être le titre de l'exposition, au début de l'exposition inaugurale. Pour différentes raisons, voilà, on a opté pour un autre titre. Mais voilà, c'est une œuvre qui sera d'ailleurs un peu au centre du parcours et encore une fois, une toute petite pièce, mais à mon sens très puissante.
Vous avez parlé d'humour, ce qui est important pour vous dans l'art contemporain. Justement, l'art contemporain, c'est un art qui est souvent assez mal compris ou ignoré, mal interprété. Pour vous, c'est quoi l'art contemporain? Ou pour vous, qu'est-ce que peut l'art contemporain?
Alors, ce qu'il peut...
Qu'est-ce qu'il devrait...
Je ne sais pas s'il doit ou s'il peut. Par contre, je peux tenter de répondre à la première question, ce qu'il est. Ce que j'ai un peu dit précédemment, l'art contemporain, c'est quelque part... disons que les artistes contemporains sont souvent peut-être mal compris de prime abord, puisque je pense qu'ils disent avec des moyens très contemporains, ils parlent de sujets parfois extrêmement universels, intemporels, mais avec des moyens très très contemporains. Pour vous donner un exemple très concret, Hicham Berada, on va présenter une grande installation vidéo dans l'exposition. Et il travaille avec des... Comme le peintre travaillerait avec des pigments pour sa toile, pour préparer sa peinture, Hicham Berada lui travaille avec des... C'est un alchimiste, en fait. Il travaille avec des matériaux qui sont des éléments utilisés par les chimistes.
Des précipités chimiques.
Voilà, exactement. Et donc, ce sont des films à travers, avec une optique macro, ces précipités chimiques qui sont plongées dans l'eau et qui créent des paysages complètement surréaliste, on pourrait dire, et c'est à la fois extrêmement poétique, c'est visuellement très très généreux, très riche. Et ce qui est intéressant finalement dans cette œuvre, c'est pas un paysage quelque part un peu abstrait ou macro qu'on ne peut pas voir véritablement à l'œil nu, si ce n'est qu'en réalité il réalise aussi des aquariums qui figent ces installations. C'est quelque part, c'est l'outil de l'artiste qui dit aussi quelque chose de l'époque. Mais pour prendre un autre exemple, les impressionnistes à la fin du 19e, enfin, à l'époque, personne n'y comprend rien, personne n'y voit rien. Mmh. Et ils sont rejetés par j'ai envie de dire, par l'académisme, par l'institution. Et, et aujourd'hui, des millions de visiteurs se ruent chaque année dans les salons impressionnistes du musée d'Orsay pour contempler ces tableaux.
Mais justement, est-ce que ce n'est pas les commentateurs en fait, qui posent problème plutôt que les spectateurs? Enfin, les personnes y vont avec leur sensibilité. Ce qui pose peut-être question, c'est justement cette surcouche de commentaires qui est un filtre quelquefois très embarrassant entre soi-même et l'œuvre. Il faut juste un peu de sensibilité pour être à l'écoute et recevoir les œuvres.
Oui, c'est important ce que vous dites. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance à sa sensibilité. Et je crois que tout un chacun est doté d'une grande sensibilité. La première exposition sur laquelle j'ai travaillé au MoCo, on présentait des œuvres essentiellement minimalistes à Montpellier. Donc des formes parfois un peu arides, en tout cas souvent pas très généreuse, des œuvres qui étaient réalisées avec une grande économie de moyens. Il y avait une installation d'un très grand artiste qui s'appelle Félix González Torres. C'était deux ampoules, deux fils qui étaient suspendues avec deux ampoules qui se touchaient et qui symbolisaient en fait la vie, l'amour et la mort. Et quand une des ampoules s'éteignait, Félix González Torres en fait est mort du sida. C'est une œuvre qu'il a réalisée à la fin de sa vie et qui était une œuvre qu'il a vraiment fait en hommage à l'amour de sa vie. Et donc j'ai été très 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 impressionné et surpris de la manière dont l'œuvre a été réceptionnée par le grand public, par des non-initiés qui ont, pour beaucoup d'entre eux, ou tout de suite en tout cas été touchés par cette œuvre très très minimaliste, encore une fois, ou alors une fois qu'ils avaient les clés de lecture via la médiation, d'un coup voilà, comprenaient de quoi parlait l'œuvre. Et ça, c'est ce que vous posez finalement, c'est aussi la question de la médiation. C'est à la fois, mais ça, avec l'équipe, on a recruté une responsable du service des publics qui va avoir vraiment, qui a comme mission notamment de travailler sur des dispositifs de médiation qui soient les plus accessibles. On parle d'aujourd'hui de dispositifs de médiation universelle. Donc c'est évidemment des questions qu'on se pose et on attache une grande importance à pas être dans des... Je pense qu'une bonne œuvre, on doit la comprendre assez simplement et parfois, en effet, il faut quelques mots, mais il faut que ces mots soient simples.
Merci. Alors le temps nous est compté, donc on va en rester là. On aura l'occasion, je l'espère en tout cas, de se retrouver à nouveau pour parler peut-être plus en avant de ces œuvres. Merci beaucoup,
et merci
Victor.
À vous. Merci beaucoup.
Victor Secrétan, directeur du Château, Centre d'Art Contemporain et du Patrimoine. C'est bien ça, c'est le nom.
C'est le nom.
C'est le nom. Ok, le château.
Le château.
Le château, oui, c'est bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, la Minute Asso que vous allez écouter maintenant n'a rien à voir. Ce sera celle de la semaine prochaine, mais moi aussi, je suis entre le passé, le présent, entre le contemporain et le château. Je suis perdue dans une faille quelque part, mais heureusement, Sylvain est là, qui veille au grain, qui m'a dit non, ce n'est pas la bonne. Alors... La bonne, c'est celle, c'est Marie-Jean-Pierre du GDOS, le Centre départemental olympique et sportif, qui vient nous parler du guide asso. C'est le nouveau dispositif. C'est le nouveau dispositif qui va englober, coordonner un petit peu tout l'accompagnement associatif ici en Sud-Ardèche. Et donc c'est elle qui nous en parle dans cette Minute Asso.
La Minute Asso.
Et top chrono pour la Minute Asso de cette semaine, on s'accorde plusieurs minutes. Je reçois aujourd'hui Marie-Jean-Pierre, trois prénoms pour une seule personne. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bienvenue dans les locaux de Fréquence 7. Tu travailles donc pour le CDOS, le GDOS, le Comité Départemental Olympique et Sportif. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas nous parler des Jeux Olympiques, mais de Guide Asso 07. C'est une plateforme nouvelle. De quoi s'agit-il ?
Alors, la semaine dernière, mercredi 3 avril, nous avons officiellement lancé le réseau d'appui à la vie associative Guide Asso en Ardèche, un réseau départemental.
Alors, c'est une initiative nationale que vous relayez et vous co-animez en Ardèche ?
C'est effectivement un dispositif national qu'on va co-porter, alors qu'on va co-animer en tout cas en Ardèche avec Mariette Damsud et moi-même, Marie pour le GDOS, et les services de l'État, le service jeunesse et sport, anciennement jeunesse et sport. Et l'idée, c'est de pouvoir appuyer, accompagner tous les bénévoles, tous les salariés, toutes les personnes qui sont intéressées par la vie associative.
Alors, c'est un dispositif d'accompagnement à la gestion d'une association. Et ça s'adresse à toutes les associations.
Ça s'adresse à toutes les associations, ça s'adresse aussi aux porteurs de projets, à toute personne qui est intéressée par ce questionnement sur la vie associative. Et l'idée, en fait, d'un réseau d'appui, c'est de dire on a une porte d'entrée pour tout le monde et après, on va pouvoir renvoyer, donc on va pouvoir informer, orienter ou accompagner en fonction de la demande, du besoin de la personne qui va nous solliciter et aussi du territoire. Sur notre Ardèche, qui est un petit peu longue, ça serait quand même bien d'avoir des personnes qui sont en capacité d'accueillir aussi bien dans le nord, dans le sud que dans le centre.
Ok, donc c'est pas forcément une répartition géographique, c'est en fonction de ce qui fait le plus de sens pour telle association ou telle collectivité.
Exactement. On a en fait dans ce nouveau réseau Guidasso, on a 4 labels sur 4 niveaux. Donc il y a un premier niveau qui serait le Guidasso Orientation. Oh, là, ça va être des structures qui vont juste vous orienter. On a après Guidasso Information. Là, c'est des personnes qui ont déjà des connaissances sur la vie associative qui vont pouvoir vous donner la primo-information. Et après, on a des dispositifs plutôt d'accompagnement avec Guidasso accompagnement généraliste et accompagnement spécialiste. Pour l'Ardèche, pour le moment, le comité olympique est le seul à porter le label accompagnement généraliste parce que ça fait déjà des dizaines d'années qu'on était, plusieurs années qu'on était labellisé CRIB, Centre de ressources d'information pour les bénévoles. Donc on a toujours accompagné toutes les structures ardéchoises, quel que soit le champ d'activité. Par contre, dans cette nouvelle labellisation, on va avoir beaucoup de structures qui sont labellisées accompagnement spécialiste, parce que c'était déjà des structures, des têtes de réseau qui fonctionnaient très bien en Ardèche. Donc on va avoir par exemple la FNCTA pour la partie théâtre amateur, AMSUD pour le SS, Pédale 07 pour le EDD. C'est des exemples, mais on en a quand même pas mal. On est une quinzaine de structures, je crois, aujourd'hui qui sont labellisées. Structures associatives, mais on va aussi avoir des structures des collectivités, parce que parfois une asso va aller taper à la porte de sa mairie. Et c'est la mairie, la secrétaire de mairie potentiellement qui va donner la première information ou l'orientation vers une autre structure.
Et en fait, c'est nous qui allons donner la première information, puisqu'à partir de début mai, vous démarrez une série d'ateliers pour valoriser l'engagement et le savoir-faire associatif.
Oui, alors il y a beaucoup de temps de formation qui sont proposés aussi dans ce réseau. Et là, donc, le comité olympique de l'Ardèche lance une deuxième promotion du CFGA, donc Certificat de formation à la gestion associative. C'est un parcours de 12 séances théoriques. À cela, on ajoute 20 journées de bénévolat et on repart avec un joli petit diplôme qui s'appelle le CFGA, qui permet de montrer, de valoriser l'engagement associatif, la montée en compétences aussi du bénévole. Donc ça marche sur un CV, ça peut aussi rassurer et montrer, effectivement, valoriser tout l'apprentissage qu'on a eu.
Et oui, réussir à se dépatouiller avec une association quand on est bénévole ou salarié, c'est des compétences professionnelles à part entière.
Ah, il y a des vraies compétences acquises, donc sur toute la partie gestion ressources humaines, sur la partie financière. Gérer la compta d'une asso, aller chercher des subventions, faire tout ce lien, il est quand même très important, aller mobiliser des bénévoles. Donc si on a déjà ces deux grands champs-là sont vraiment énormes, plus la partie fonctionnement administratif bête et méchant d'une structure, avec pas mal de paperasse.
Alors ça s'adresse à qui ce CFGA, du coup, le certificat de formation à la gestion associative?
Ça s'adresse à tout bénévole au-dessus de 16 ans. Là, on le lance sur le bassin d'Aubenas. Donc voilà, ça va être les lundis soirs. On commence le 6 mai, mais ça se terminera au mois de décembre. On a jusqu'à la fin de l'année, donc ça ne sera pas tous les lundis. Ça va être plutôt sympa. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger. C'est le moment où parfois on est un peu seul dans son asso. En tout cas, on a tous la même vision des choses. Là, c'est d'aller voir d'autres associations, d'autres personnes qui fonctionnent un peu différemment, d'échanger, de se nourrir les uns des autres. C'est vraiment des chouettes moments de partage.
Et donc si les personnes qui nous écoutent, qui fréquentent assidûment ou pas le milieu associatif, veulent prendre des infos, que ce soit sur le guide asso 07 ou sur la formation qui démarre au mois de mai, comment on fait ?
Alors, on va tout retrouver sur notre tout nouveau site internet qui s'appelle guideasso07.fr. Au-dessus, on a mis en place une boîte à outils, donc il y a déjà pas mal de ressources dispo pour les bénévoles. Vous allez retrouver les contacts de toutes les structures labellisées et des animatrices, donc de Mariette, moi-même et Christelle Durand pour les services de l'État. Et vous allez retrouver donc la carte avec les points labellisés et un agenda avec tous les temps de formation qui sont proposés, tous les événements grand public qui sont proposés dans le secteur associatif.
Il y a un numéro de téléphone aussi pour s'informer ?
Alors, dessus, oui, vous allez retrouver, il y a un contact qui est possible par mail, et il y a les coordonnées téléphoniques de moi-même et de mes deux collègues co-animatrices.
Ok, super. Tu veux rajouter quelque chose, Marie ?
Non, longue vie à ce réseau Guide Asso. On va essayer d'être plus efficace. Il y avait cet objet de se dire il faut rendre plus lisible l'appui, l'accompagnement de la vie associative. On a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on existe, alors qu'on est vraiment là pour les aider, pour les accompagner. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et tout ce qu'on fait, généralement, est gratuit. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur Guide Asso 07 et après pousser nos portes.
Ça marche. Merci, à bientôt.
Merci.
La Minute Asso.
C'était la douce voix de Quentin que vous avez entendu pour la Minute Asso et aussi de Marie-Jean-Pierre Duc-Dos. Merci à tous les deux. Et donc, je rappelle que vous pouvez réécouter l'onde curieuse à 17h et aussi en replay pour rejeter une oreille à notre sujet qui était aujourd'hui une première rencontre avec Victor Secrétan, directeur du Château Centre d'Art Contemporain et du Patrimoine d'Aubenas. Et il y a encore tellement, tellement de choses à dire qui se sont dites ici hors micro et puis qu'on vous fera partager, j'espère, très bientôt. Restez à l'écoute de Fréquence 7 puisqu'à 13h, c'est les jardins suspendus. À 15h, le Telex, c'est vos messages, vos annonces, vos déclarations d'amour pour Fréquence 7. À 17h, c'est l'onde curieuse, la rediffusion. À 18h, solidaire d'abord. À 19h, c'est tu danses. À 20h, chez Tonton, une petite incursion dans la musique africaine contemporaine. Et à 21h, Hexagone Live. Je n'ai pas le sujet, mais ce sera sans doute très très bon puisque c'est DJ Steph qui l'a choisi. Merci beaucoup à toutes et tous et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. À demain.